On est dans Perek Mem, Ve'av Deoraita Ve'kut Shabrichu Kulachat. Qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant? On a expliqué au début du Perek Mem, on a étudié la semaine dernière, on a repris le concept qu'on avait expliqué à la fin du Perek Lamed Tet, qu'une mitzvah, tant qu'on signe une mitzvah qui est faite sans kavana, ou bien une mitzvah qui est faite avec une mauvaise kavana, par exemple une kavana qui n'est pas l'ishma, c'est-à-dire je fais une mitzvah pour un besoin personnel, pour devenir rabbin, pour devenir rosh yeshiva. Qu'est-ce qui se passe avec cette mitzvah? Cette mitzvah reste bloquée en bas. Et avec ça, on avait expliqué à la fin du cours la semaine dernière que c'est ça ce que le roi Salomon dit. Ma'itron le adam bechol amalo sheyamol tachat hashemesh. Il dit à quoi bon de travailler, à quoi bon de tout le labeur qu'on peut fournir sous le soleil. Ça veut dire quoi sous le soleil? Ça veut dire que à quoi ça sert tout ce qu'on fait si tout ce qu'on fait ça reste sous le soleil et ça ne monte pas? On a expliqué que grâce à la kavana, la mitzvah elle monte. Et donc c'est là qu'au Baruch Hashem on avait expliqué longuement le concept, la différence entre le lishma et pas lishma. Et quand on fait une mitzvah lishma, qu'est-ce qui se passe? La mitzvah elle décolle tout de suite. Alors que quand on fait une mitzvah pas lishma, ou bien avec une mauvaise kavana, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La mitzvah elle reste bloquée en bas. C'est là qu'on avait expliqué tout le concept du Baal Shem Tov, etc. Là maintenant, l'Admor HaZaken va développer un peu plus ce concept. On va s'arrêter surtout sur le fait qu'a priori c'est très étonnant. On comprend pas, hein, comment ça se fait, comment on peut comprendre le fait que la Torah peut rester en bas. Une étude de Torah, des mots de Torah peuvent rester en bas. Nous on a toujours appris que dans la Torah il y a l'essence de Dieu qui se trouve et tous les jolis mots qu'on a appris sur la Torah. Donc, quand j'ai fini d'étudier la Torah, c'est le plus important, c'est les mots de Dieu, c'est l'essence de Dieu, etc. Comment on peut comprendre dans ce cas-là? Quand on nous dit qu'il y a certaines mitzvot et certaines Torahs qui montent, et il y a d'autres mitzvot et d'autres Torahs qui ne montent pas. Celles qui montent, celles qui sont faites avec Kavana, celles qui ne montent pas, celles qui sont faites sans Kavana. Comment comprendre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel détail nous manque ici? Dans les mots de Morazaken. Donc la question qu'on a posée est, bien que la Torah et Dieu forment un. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'essence de Dieu, d'autres termes dans les termes que j'ai dit tout à l'heure, l'essence de Dieu, c'est la Torah. Shehu urtsono echad. Puisque la Torah, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu et sa volonté sont une seule chose. Et ça, le concept que la volonté d'une personne et la personne forment une seule chose, on le retrouve chez l'homme également. Parce qu'on dit que Dieu nous a créé à son image. Chez l'homme aussi on retrouve. On peut dire qu'une personne réfléchit avec sa tête. Une personne peut avoir mal avec sa tête. D'accord? Avec un membre. Une personne peut éprouver du plaisir avec un certain membre, avec un main, avec les pieds, avec tout ce que vous voulez. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas dire qui est définie à un membre particulier. C'est quoi, hein? C'est le ratson, la volonté. La volonté. Il y a également aussi une forme de plaisir qui est un plaisir qui entoure le corps. Mais là, on va se focaliser sur la volonté. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est quelque chose qui... On peut pas dire, je peux pas dire ma tête elle veut, ma main elle veut, mes pieds ils veulent. C'est moi qui veux. Dans la volonté, on retrouve toute la personne. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar, il dit que Orait avec Kutchabri Khukulachad. Dieu et la Torah, c'est une seule chose. Pourquoi? Shehu Urtsono Echad. Parce que Dieu et sa volonté forment une seule chose. Or, on sait très bien que la Torah, c'est la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que la Torah, c'est pas un organe d'Akadosh Baruch Hu, si on pourrait dire comme ça. C'est Dieu en personne. Alors d'après ça, la question qu'on peut se poser, c'est que comment on peut dire que certaines mitzvot, certaines Torahs ne montent pas? Alors Morazakin dit, je sais très bien comment m'attaquer. D'accord. Morazakin dit, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? On avait dit que des fois, il y a des gens qui peuvent étudier la Torah toute leur vie, dans une yeshiva et tout ce que vous voulez. Donc en vérité, leur Torah et mitzvot, ils restent bloqués en bas. Alors, Morazakini, je sais qu'on va poser la question, on va dire oui, mais ça c'est bien beau ce que tu dis. Mais nous, on étudie la Torah, on a des mots de Torah dans notre bouche. Et normalement, les mots de Torah doivent être intemporels. Ils doivent pas être limités par le temps, doivent pas être limités par l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce que tu me dis que ça dépend de ma kavana personnelle? Explique-le de Morazakini. Et là, on va avoir un sujet très intéressant. Il dit, Are, kut shabrichu, iu memal et kolal min beshavi. On sait que Akadosh Baruch Hu, le Zohar dit, que Akadosh Baruch Hu emplit tous les mondes de manière égale. C'est un terme du Zohar. Il dit que Akadosh Baruch Hu emplit tous les mondes. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'espace vide. Ça n'existe pas. Jamais d'espace vide. On ne peut pas dire que le monde, par exemple, est vide de Dieu. Tous les mondes, quand on dit tous les mondes, c'est-à-dire tous les niveaux, toutes les dimensions, comme on a expliqué que monde, ça veut dire dimension, toutes les dimensions sont emplies par Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar continue, il dit « Béchavé ». Elles sont tous emplies de manière égale. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que Dieu est plus présent en haut qu'en bas. Ah, mais pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Pourtant, on voit dans les faits que a priori, Dieu est plus présent en haut qu'en bas. Quand on lui dit au Gan Eden, par exemple, Dieu est présent. En bas, on ne voit pas que Dieu est présent. Ça, l'Admour Hazaken nous a expliqué, vous allez voir comment avec ça, il va répondre à la question. Le fait que nous, on ne sent pas en bas, alors qu'en haut, on sent, c'est pas parce que Dieu a donné plus ou Dieu a donné moins. La différence, à Shinui ou à Mekablim, Vafal Piken El Alamot Shavim Malatam, les mondes ne sont pas égaux, va Shinui ou à Mekablim. La différence va être par rapport à ceux qui reçoivent, par rapport au réceptacle. C'est-à-dire comme ça. De la perspective d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde la même chose. Il donne pas plus au Gan Eden qu'à nous. Il donne exactement la même chose à tout le monde. Mais Malé Kolalmin Béchané. Dieu, c'est une seule entité. Et puisque Dieu, c'est une seule entité, il donne à tout le monde la même chose. La seule différence va être Mea Mekablim. Mekablim, c'est les réceptacles. Donc les réceptacles, c'est nous, c'est le Gan Eden, c'est tous les mondes qui existent. C'est quoi cette différence? Bébet. Ça va être en deux pistes différentes. Donc rappelez-vous, l'Admor Hazaken ici veut répondre à une question. La question qu'on a posée, c'est a priori, on va prendre du temps à répondre à cette question. Juste, je rappelle la question. La question est, comment comprendre le fait que la Torah, qui est normalement intemporelle, qui n'est pas limitée par le temps et l'espace, comment on peut imaginer une Torah qui reste bloquée en bas? A priori, ça veut rien dire. Ça casse tout ce qu'on a expliqué. Normalement, ça tient pas debout, parce que ça voudrait dire que la Torah dépend de la kavana de l'individu. Alors que normalement, toujours on nous dit, la Torah, c'est plus fort que l'individu. La Torah, ça éclaire une personne, ça illumine une personne. Là, on a l'impression que ça dépend de la kavana. Comment expliquer ça? Alors là, de Morazaken, déjà, il explique un premier point. Il dit, déjà, il faut expliquer quelque chose de très important. Que s'il y a une différence entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, donc en d'autres termes, qu'est-ce qu'on a dit avec la kavana? La kavana, ça fait monter notre Torah et mitzvot. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient en bas, maintenant, ils montent en haut. Déjà, il dit l'Admor Hazaken, s'il y a une différence entre en haut et en bas, c'est pas une différence par rapport à l'émanation de Dieu. L'émanation de Dieu est exactement la même. Où est la différence? La différence va être dans les réceptacles. Dans deux pistes. Première piste. Bébet Trinot. A Aleph, premièrement, chez Elioni, Mekablim, Ahara, Yoter Gdola, les Enkets, Maatartoni. Premièrement, c'est quoi? C'est que d'abord, je vais lire les deux points, après je vais les expliquer. Chez Elioni, Mekablim, Ahara, Yoter, les Enkets, Maatartoni. Premièrement, c'est qu'en quantité, ceux qui sont en haut reçoivent beaucoup plus que ceux qui sont en bas. C'est premièrement. Ben, chez Nit, et deuxièmement, chez Mekablim, Bli, les Vushi, ou Masachim, Rabim. Ça, c'est en qualité. Qui vont recevoir, ceux qui sont en haut vont recevoir Bil Levushi ou Masachim Rabim sans autant d'obstacles et de vêtements Kolkar Kebetartonim comme ce serait le cas en bas. Il y a une fois on raconte une histoire avec le premier rabbi de Gour, rabbi Trekmeir de Gour. Une fois il a demandé à ses chassidim, il est rentré au Beit HaMidrash, il a demandé à ses chassidim, il leur a dit où se trouve Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, il pose la question, pac, il rentre au Beit HaMidrash, il demande à ses chassidim, où se trouve Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les chassidim d'après vous?
Partout.
Et partout. Hein, c'est la chanson qu'on apprend quand on est petit. Hachem est ici, Hachem est là, Hachem est partout à la fois. Comme ça. Comme ça.
Oui, c'est
comme ça. Cheder, on a pris. Cheder, ouais. D'accord. Donc les chassidim, bien sûr, ils ont répondu partout. Rabbi, il a répondu, il leur dit non. Dieu se trouve pas partout. Dieu se trouve où on le laisse rentrer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire le concept que l'Admor Hazaken dit ici. Le concept que l'Admor Hazaken dit ici, c'est qu'en vérité, Dieu, il est partout. Il est partout. L'émanation de Dieu est égale partout. Quand il pose la question où se trouve Dieu, il te dit Dieu se trouve où tu le laisses rentrer. Si tu ne le laisses pas rentrer, Dieu ne peut pas rentrer chez toi. Alors, qu'est-ce qu'on explique ici? On explique.
Il se trouve partout, comment c'est possible qu'il ne peut pas rentrer chez toi?
Bonne question. C'est ça qu'il faut expliquer. Il faut expliquer quelle est la différence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Qu'est-ce qui fait qu'au Gan Eden, on voit Dieu, entre guillemets, on sent Dieu, et en bas, on ne le sent pas?
Ouais, quand tu dis qu'il ne rentre pas, c'est-à-dire que tu ne le sens pas?
Ben oui, je le sens pas.
Ça veut dire qu'il ne rentre pas.
On a dit que non. La différence, l'émanation est la même. L'émanation est la même. Maintenant,
partout, dans tous les...
la différence va être, est-ce que je l'accepte ou je l'accepte pas? Tu peux rejeter Dieu.
Comme il est quand même, il est quand même là de la même manière.
Mais il sera là beaucoup moins.
Non mais...
Non, il sera là beaucoup moins. Ça veut
dire qu'il emplit tous les mondes de la même manière.
Il sera là beaucoup moins. Bon, ça, on va pas s'écarter du sujet, mais il sera là beaucoup moins. C'est comme si je veux te dire, tu as un néon, d'accord, qui éclaire.
Oui.
Si tu laisses pas rentrer Dieu, ça veut dire le néon, il va pas éclairer. Le néon, il sera toujours là, mais il va pas éclairer.
C'est pas ça que ça veut dire.
C'est ça que ça veut dire.
Non. Donc, le néon, il est partout.
C'est pardon?
Est-ce que le néon, ça veut dire que tu le bouches? C'est comme si tu
mettais... Tu le bouches, d'accord? Tu laisses pas Dieu, si tu laisses pas, tu laisses pas... L'émanation est là, mais on la laisse pas. Alors, dans deux pistes, on a dit. C'est quoi les deux pistes? On a une piste en quantité. On peut bloquer la lumière des Kadosh Baruch Hu. C'est ça, c'est Dieu qui nous a donné cette force. Sinon, jamais on aurait voulu faire d'Averot. On a une piste qui est en quantité, une piste qui est en qualité. Je vais donner un exemple très simple.
C'est l'endroit où il n'est pas, alors.
Je vais donner un exemple très simple. Oui, a priori, ça c'est une autre question que tu poses. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits où Dieu n'est pas? Par exemple, le Gaon de Vilna lui dit, on peut pas concevoir que Dieu se trouve dans des toilettes. C'est comme ça, il dit le Gaon de Vilna. D'accord. Et Admor HaZaken, on va étudier après dans Sha'ar Eichud Ve'Emouna, il explique comment il n'est pas d'accord avec ça. D'ailleurs, l'élève du Gaon de Vilna, l'élève principal qui sera Rabbi Chaim de Volozhin, qui a écrit Nefesh HaChaim, dans son livre Nefesh HaChaim rejoint la vie d'Admor HaZaken. D'accord. Il va expliquer comment on peut concevoir que Dieu se trouve même dans des toilettes, mais pas de la même manière qu'une synagogue. Si vous voyez, la lumière, elle est cachée dans les toilettes, mais elle est là, Dieu est là. Donc, on a dit qu'il y a deux pistes. C'est quoi les deux pistes? Une piste, c'est dans la quantité, une piste, c'est dans la qualité. Je vais donner un exemple très simple. Enfin, on a deux types d'intelligence. Quand on dit que quelqu'un est intelligent, on a deux types d'intelligence. Vous avez une personne qui est intelligente. Pourquoi on dit qu'il est intelligent? Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement rapide. Vous avez des gens qui sont brillants. Brillants. C'est-à-dire, tu lui poses une question, tac, tac, il est très rapide, au quart de tour, il réagit. Ça c'est le premier détail dans l'intelligence. Deuxième détail dans l'intelligence, c'est quoi? C'est pas la rapidité, mais c'est la lucidité. Le fait de qu'on comprend quelque chose.
Profondeur.
Et ces deux éléments-là ne sont pas du tout liés. On peut avoir une personne qui a les deux, une personne qui a aucune des deux, ou une personne qui a une des deux. On peut avoir des gens qui sont extrêmement lents, c'est-à-dire qu'ils sont très très lents à comprendre, mais une fois qu'ils ont compris, ils ont une lucidité, ils comprennent la chose de manière à ce qu'ils voient la chose devant eux. D'un autre côté, vous avez des gens qui sont extrêmement rapides. Mais d'un autre côté, en vérité, tout est flou chez eux. Ça, on le voit. On le voit quand, par exemple, dans les livres, quand on voit les livres que les gens ils écrivent, d'accord, on voit qu'il y a des auteurs qui sont particulièrement brillants. Ça veut dire, tu vois, ils t'amènent des références dans tous les sens. Mais de la manière comment c'est écrit, tu te demandes est-ce que la personne qui a écrit a compris ce qu'elle a dit. Il est brillant. C'est clair qu'il est brillant. Il est brillant. Son cerveau, il va dans tous les sens. Il tombe très très vite. D'accord. Mais tu te demandes, est-ce que la personne elle-même a compris? Est-ce que c'est lucide dans sa tête? Pas forcément. Des fois oui, des fois non. C'est deux détails complètement qui n'ont aucun rapport, qui sont dans l'intelligence. Premier détail, c'est la quantité. Quand je dis la quantité, ça veut dire la vitesse à laquelle ça va, la vitesse du processeur. Et deuxième détail, c'est la lucidité. Donc j'appelle ça la qualité. D'accord. On peut donc quantité, qualité. On peut appeler ça aussi volume. D'accord. Donc tu as le volume des informations qui passent. Et d'un autre côté, tu as la lucidité. Est-ce que c'est clair dans ma tête ou est-ce que c'est pas clair dans ma tête? Deux détails. De la même manière, quand on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous, on a ces deux pistes-là. Akadosh Baruch Hu, quand il se dévoile à nous, on a deux choses. Premièrement, il y a la quantité, comment Akadosh Baruch Hu se dévoile. Est-ce qu'il donne beaucoup de lumière, est-ce qu'il ne donne pas beaucoup de lumière? Et on a après le degré de lucidité. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on voit clairement Dieu ou est-ce qu'on ne voit pas Dieu? Deux choses complètement différentes. Quantité et qualité. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est deux choses qui sont pas du tout liées. On peut avoir une personne qui a les deux, une personne qui a aucun des deux, une personne qui a un des deux. Ce qu'il va expliquer l'Admor HaZaken ici, c'est que dans le monde ici-bas, on est limité, notre handicap est sur les deux plans, sur la quantité et sur la qualité. Ça veut dire quoi sur la quantité, sur la qualité? Et sur la quantité, on est limité, ça veut dire que la dose de lumière qu'Akadosh Baruch Hu, si tu veux, qu'on arrive, que notre ustensile arrive à prendre.
Que la Neshama, il n'y a pas de différence entre la matière et l'esprit, c'était uniquement un problème de contraction de la lumière.
Ouais.
Tu te rappelles ou pas?
Oui, oui, c'est
le trou dans le mur, ça.
Oui, le trou dans le mur, exactement.
Le trou dans le mur, voilà, c'est ça.
Alors là, ce qu'il explique, c'est comme ça. Il explique que notre handicap qu'on a ici-bas, et par rapport à ça, on va expliquer quel va être le rôle de la Kavana. D'accord? Et quel va être le rôle de la Kavana? Là, déjà, premièrement, il pose les jalons. Il dit, très important de comprendre, il faut savoir que dans le monde ici-bas, on est limité, on est handicapé sur les deux points. Premièrement, notre processeur est lent. Ça veut dire que en quantité, on est très limité par rapport à la lumière qu'on peut recevoir. C'est comme tu as dit par rapport au trou qu'il y a dans le mur. Et deuxièmement, mis à part ça, même le peu de lumière qui arrive à passer, c'est flou.
Parce qu'il y a des filtres.
Non, le filtre, il est là pour... Le filtre, oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, des filtres de couleur, par exemple. C'est flou. Alors, dans les mots. Vachenit, Shemekablim, Bilivushium Asahim Rabim Kolkar, Kebetartonim. Donc premièrement, on a dit quantité, deuxièmement, qualité. Donc c'est ça ce qui fait la différence entre en haut et en bas. Donc bien entendu, il y a plusieurs dimensions, il y a sans fin des dimensions. Qu'est-ce qui fait le fait qu'il y a en haut et en bas? Enfin, c'est une notion qu'on avait vue au début du chapitre 36. Puisque Kadosh Baruch Hu est le même partout, alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les endroits où Dieu ne se trouve pas? Il dit non, Dieu se trouve partout. Seulement après, la différence va être par rapport au réceptacle, par rapport à nous qui recevons la lumière. Comment nous on reçoit? Est-ce qu'on a un réceptacle assez gros pour recevoir ou on n'a pas un réceptacle assez gros pour recevoir? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que nous, en bas, on est limité dans les deux. Et c'est ça ce qui fait la différence entre en haut et en bas. En haut, ils sont pas limités dans aucun des deux, ou bien peut-être qu'il y en a qui sont limités dans un des deux. De manière générale, ils sont pas limités. C'est ça ce qui fait la différence entre en haut et en bas. Plus on descend en bas, et plus on va être limité dans la quantité, dans la masse d'informations qui peut passer, dans la masse de lumière qui peut passer, et dans la qualité de l'information. Ve'olamazé ou olam hachafel bebet prinot. Notre monde est le monde qui est le plus bas dans ces deux niveaux. Ces deux niveaux-là, d'ailleurs, par la suite, on les appellera souvent Tzimtzum et Elem. Ces deux niveaux de comment Akadosh Baruch Hu se contracte, on va les appeler Tzimtzum et Elem. Tzimtzum, ça veut dire que Dieu, il se contracte, d'accord? Et Elem, je sais pas comment on peut traduire, Elem, ça veut dire se cacher. Il se voile, voilà. Donc, on a contracté et on a voilé. Contracté, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de lumière, il y en a un peu. Mais le peu de lumière qu'il y a peut être bon. On n'a pas de problème avec ça. Alors que le voile, le concept du voile, c'est pas forcément qu'on va avec la lumière. On peut avoir une lumière qui est très forte, mais comme il y a un voile, on voit pas bien ce qui se passe de l'autre côté. Contracté et voilé. Notre monde en bas, quand on dit qu'il est bas, il est bas sur ces deux plans. Bichté a bébête a pris note, dans ces deux niveaux. Qui a arraché Boi Metsumsemet et Tsaharon? Premièrement, la masse de lumière qui arrive jusqu'en bas, elle est extrêmement contractée. Al-Tsaharon, c'est-à-dire jusqu'au bout, plus loin que ça, on ne peut pas avoir. Velachen, c'est pour ça, au Khum Rive Gashmi. C'est pour ça que notre monde est matériel. Pourquoi? Parce que, obligatoirement, si on n'avait pas cette contraction-là, notre monde n'aurait pas pu être matériel. Par nature, la différence qu'il y a entre le matériel et le spirituel, on l'a expliqué plusieurs fois, c'est que le spirituel est annulé à Dieu, alors que le matériel, il doit constamment montrer qu'il est là. C'est le contraire, le matériel et le spirituel sont contradictoires. Donc comment le monde d'en bas ici peut être matériel? C'est parce que la lumière est contractée, il n'y a pratiquement pas de lumière. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, maintenant j'aurais pu dire, bon, ok, il y a un peu de lumière, mais le peu de lumière qu'il a, on veut le voir, on veut le sentir, Dieu, il est où Dieu? On te dit non. Ve'gamzot, ibelevushi ou masachim rabim. Mais le peu de lumière qui est passé, ce peu de lumière qui est passé, Dieu a mis encore des voiles et des voiles et des voiles. Ce qui fait que même le peu de lumière qu'il y a, on ne le voit pas. C'est pour ça, d'accord? Notre monde est tellement bas que la barrière, la limite qui sépare entre le bien et le mal est souvent très fine. Normalement, si tu me dis que c'est seulement une question de quantité, qu'en haut on voit beaucoup Dieu et en bas on voit un peu Dieu. Alors le peu qu'on aurait dû voir, ça aurait dû être un rayon de vérité que personne ne peut contredire. Ok, il y a un peu de lumière, mais le peu de lumière, quand elle est dans l'obscurité, tu as quelqu'un qui va venir avec un gros spot et un qui va venir avec une petite bougie. Mais la petite bougie, c'est une bougie, c'est une lumière. Donc au moins, on voit la lumière. Pourquoi Dieu, même cette lumière-là, on la voit pas? Pourquoi? Parce que, mis à part le fait qu'il y a une contraction, à part la contraction dans la quantité, il y a également un LM, il y a un voilement, un voilage ou un voilement?
Voilement.
Un voilement?
Un voile.
Un voile dans la qualité. Il vouchim ou masachim rabbi. Et c'est pour ça qu'en bas, très souvent, il y a des situations que ça peut paraître bon comme ça peut paraître mauvais. C'est la définition de Klipat Noga. Il y a des choses qu'on sait directement qu'elles sont mauvaises. Des choses que c'est défini. Il y a des choses que Dieu dans son extrême bonté, a fait que même s'il a voilé, mais il n'a pas voilé à 100%. C'est-à-dire, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Ça, c'est parce que Dieu a pas mis le voile à 100%. Mais il a mis un voile. Sur quoi il s'applique ce voile? Ce voile, il s'applique sur tout ce qui est Klipat Noga, tous les éléments neutres. Par exemple, quand je prends une feuille de papier, c'est neutre. Tu peux écrire dessus des paroles de Torah, je peux écrire des bêtises dessus. C'est neutre la feuille de papier. Ça s'appelle Klipat Noga. D'accord? C'est neutre. Elle est neutre la feuille de papier. D'où vient ce fait? Normalement, dans la Kedusha, il n'y a rien de neutre. Ça n'existe pas. C'est impossible. C'est ou tu es annulé à Dieu, ou tu n'es pas annulé à Dieu. Comment c'est possible que quand on arrive en bas, on a des éléments qui deviennent neutres? D'où ça vient ça? Ça vient du voilage. Ça c'est ce qui fait le voilage. Le voile. Le voile fait que il y a un flou et qu'on ne sait pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et que la même chose peut être bonne et peut être mauvaise. Le Klipat Noga. D'un côté on a la Kdusha, de l'autre côté on a le mal. Ça c'est défini. Mais il y a le voile. En vérité, le voile c'est la majorité, la Klipat Noga c'est la majorité des choses qu'on fait pendant la journée. Notre travail, tout ce qu'on fait dans la journée. Tout ce qui n'est pas ni clairement mitzvah, ni clairement avera, rentre dans la catégorie de Klipat Noga. Ça peut aider une mitzvah et ça peut devenir une avera. D'accord? Comment c'est possible ça? Ça c'est parce qu'il y a un voilage. Le gamzot il est bouché. Ah, tu n'es avec Klipat Noga, la chose que le variant est la mazé. Ou bichlalam. Nefesh achiyuni, tam taberet shebad. Rav Stenzel se raconte ici une histoire, il dit qu'il a connu une famille. Il a connu une famille dans laquelle, une famille de 5 frères. D'accord? 5 frères. Et quatre des cinq frères sont devenus des grands rabbinim. Comme ça, il raconte. Quatre des cinq frères sont devenus des grands rabbinim, des gens très intelligents. Le cinquième frère était considéré toujours le bête de la famille. Non, il n'est pas spécialement intelligent. Et pourtant, qu'est-ce qu'il témoigne? Il témoigne, il dit qu'on a vu que le plus honnête des cinq frères, le plus vrai, c'est pas honnête, c'est pas un bon mot, parce que c'est des rabbins et c'était honnête, le plus vrai, vous avez des gens qui sont vrais, ça veut dire des gens qui n'arrivent pas à supporter dès qu'il y a quelque chose qui tombe par rond. Bon, ça veut pas dire faire des avéras, celui qui n'est pas vrai comme ça, ça veut pas dire qu'il fait une avéra, c'est une nature ça. Le plus vrai parmi les cinq frères, c'était qui? Celui le plus bête. C'est pas le plus bête, on l'appelait le soi-disant le plus bête. Ça veut dire quoi? J'explique ça pour montrer que c'est deux éléments qui sont complètement différents. D'accord? Ça veut dire ses frères, le rabbanim, ils avaient une masse d'informations, c'était des gens brillants. Mais d'un autre côté, ils n'avaient pas la même lucidité que le frère avait, l'autre que le cinquième frère avait. Lui, le cinquième frère, c'est vrai qu'il n'était pas brillant comme les autres, mais il avait une lucidité, c'est-à-dire que pour lui, quand quelque chose n'est pas bien, il le voit qu'il n'est pas bien.
D'accord.
Alors que les autres qui sont brillants, bon, ils comprennent, mais avec leur cerveau, ils peuvent tourner dans tous les sens. Et dans les, et ça veut dire que dans les faits, dans le fait quand tu lui poses la question, est-ce que c'est bien cette chose-là ou c'est pas bien, il saura pas te répondre. Ça, on le voit, vous savez, on voit souvent cette différence entre les gens simples et les gens intelligents. Quelqu'un d'intelligent, chez les gens intelligents, très souvent, la limite entre le bien et le mal n'est pas assez bien définie. Ça veut dire qu'il va faire quelque chose, il va dire, mais c'est pas bien ce que tu fais. Il va s'arranger pour t'expliquer que ce qu'il fait, c'est bien. Bien qu'au fond de lui,
il
sait que c'est pas bien ce qu'il fait. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans sa tête, c'est pas clair. Dans sa tête, c'est pas clair. Quelque part, des fois, dans notre tête, on se dit, ce que je fais, c'est bien. Mais au fond, on sait que c'est pas bien, mais ça veut dire que dans ma tête, c'est pas clair. D'un autre côté, tu vas avoir quelqu'un de très simple, qui est peut-être pas aussi brillant que toi, mais lui, chez lui, c'est clair, c'est lucide. Ça, c'est pas bien. C'est lucide. C'est lucide, c'est clair. Il voit comment c'est pas bien.
C'est marrant, j'aurais dit le contraire.
D'accord? Non, pas du tout. Ça, c'est pas du tout. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Et des fois, des gens qui sont le plus simples, les gens qui sont le plus simples, pour eux, ils voient les choses de manière très très claire. Tu lui dis quelque chose, ouais. Il a compris la chose, tu lui as dit c'est pas bien parce que tu fais ci, tu comprends? Pour lui, c'est clair, il voit la chose devant lui. Ouais. Par exemple, tu lui dis, quand tu fais une avéra, tu fais du mal à Dieu, il voit qu'il fait du mal à Dieu. Alors quelqu'un d'intelligent, il va essayer d'analyser, qu'est-ce que ça veut dire que ça veut pas
oui,
dire.
Oui, c'est ça, oui.
D'accord? Ça veut dire que
oui, mais il va analyser, donc
plus on est simple,
c'était
plus
ça.
On... Oui, mais encore une fois, c'est pour ça que je te dis que le fait d'être brillant et le fait d'être lucide, c'est pas du tout lié.
L'égal, c'est d'être les deux, non?
Bien sûr, ah, c'est top ça. Top, c'est d'être les deux. Mais c'est un don que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour ça. Il dit comme ça. Il dit que Ubichlalam ou Nefesh Achiyunit, un Nefesh Achiyunit amdaberat sheba adam. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué il y a quelques mois, hein? On avait expliqué que on avait trois âmes en nous. En fait, c'est plutôt deux, mais la deuxième, elle est découpée en deux. On a d'un côté la Nefesh Elokit, l'âme divine. De l'autre côté, on a l'âme animale. Maintenant, cette âme animale est découpée en deux. D'accord? On a le côté BMI, le côté animal, ça veut dire qui va rentrer en fonction quand on fait une avéra. Et on a le côté Riyuni. Le côté Riyuni, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fait toute la journée, qui n'est ni avéra, ni mitzvah. On vit comme des animaux. D'accord. Tout le côté,
l'énergie.
On l'avait appelé ça l'âme vitale, d'accord? L'âme vitale ou l'âme instinctive, appelez-la comme vous voulez. Ça veut dire le côté qu'on a en nous comme les animaux. Un animal, il vit. Ben, moi aussi, je vis.
J'ai envie de vivre.
D'accord? Ni positif, ni négatif. Cette Nefesh HaRiyunit aussi, d'où elle vient? Cette Nefesh HaRiyunit, elle vient également de Klipat Noga. Klipat Noga, ça veut dire c'est un élément neutre. C'est pour ça, que Nefesh HaRiyunit amdaberet sheba adam. Notamment, la parole, d'où ça provient la parole? La parole, le fait que je peux parler. Bonjour, au revoir, d'où ça vient la parole? La parole, elle ne vient ni de l'âme divine, ni de l'âme animale. Pourquoi? Parce que, ni elle vient de l'âme divine, parce que quand je parle, je ne fais pas forcément une mitzvah, ni elle vient de l'âme animale, le côté BMI. Pourquoi? Parce que quand je parle, je ne suis pas en train forcément de faire une avéra. Je ne peux rien faire quand je parle, je peux raconter quelque chose qui est ni une mitzvah, ni une avéra.
C'est neutre.
Donc, c'est neutre. Puisque c'est neutre, ça rentre dans la catégorie de Nefesh HaRiyunit, l'âme vitale. Ça veut dire l'âme vitale. Tu fais, ça peut être bon, ça peut être mauvais.
Elle provient de l'âme à tôt ou de l'âme à...
Tôt. Elle provient de l'âme à tôt. Velachen. Chemdaberet divret Torah ou Tfila. Donc maintenant qu'on a compris ce concept-là, d'accord? Maintenant qu'on a bien compris ce concept-là, que Akadosh Baruch Hu, quand il descend en bas, le réceptacle, non seulement qui se rétracte, mais à part ça, il se voile. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer d'analyser ce qui se passe quand je suis en train de dire une parole de Torah. On dit une parole de Torah maintenant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va analyser ensemble ce qui se passe. Qu'est-ce que je viens de dire? La parole, ça vient d'où? Ça vient de Nefesh HaRiyunit. C'est-à-dire que la parole, c'est un élément neutre. Donc quand je vais dire une parole de Torah, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je cherche à faire avec ma parole maintenant?
Tu la mets au service de...
J'ai envie de prendre cet élément qui est neutre
et
j'ai envie de le mettre au service, pas seulement de le mettre au service. Comme on l'avait expliqué dans le chapitre 35, j'ai envie de le transformer en bien. Que l'âme, enfin, de, comme on avait dit, de la déisation, c'est ça?
Oui.
J'ai envie
de déifier
mon corps. Que tout mon corps entier devient un outil d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez? Chapitre 35, on avait expliqué ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand les mots de Torah, je vais les dire sans Kavana? Je vais dire des mots de Torah, mais je vais dire sans Kavana. On va analyser ce qui va se passer. Parce que, non, on comprend le contexte maintenant. Le contexte, c'est pas simplement des paroles de Torah. Il y a un contexte ici. C'est des mots que je vais utiliser, et ces mots-là proviennent obligatoirement de Nefesh Reunit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'ils proviennent de Nefesh Reunit, ça veut dire qu'à la base, les mots, d'accord? Comment, normalement, c'est impossible que quelque chose est neutre. Non, c'est impossible. C'est ou c'est annulé à Dieu, ou c'est pas annulé à Dieu. Si c'est un élément neutre, ça veut dire que, premièrement, la lumière de Dieu est contractée, deuxièmement, la lumière de Dieu est voilée. Et tellement elle est voilée, qu'on arrive à un point qu'il y a un flou, qu'on ne sait pas si c'est bon ou c'est mauvais. C'est Klipat Noga. Donc, les mots de Torah que je vais dire, je vais commencer à dire des mots de Torah. Voilà, les mots de Torah que je suis en train de dire maintenant. À la base, avant de commencer, c'est quoi ces mots-là? Ces mots-là, ils sont un statut qui sont tellement bas, ils sont pas aussi bas que le mal, certes, mais ils sont tellement bas, que la lumière qu'il y a en eux, la lumière de Dieu qu'il y a en eux, est contractée et voilée. On est bien d'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Julien, tu suis?
Quoi, il n'y a pas de Kabbalah, tu veux dire?
De quel mot on parle? Des mots qui sont écrits?
Là, je parle un mot de Torah, voilà, je dis un mot de Torah.
Quand tu dis un mot de Torah,
même à l'écriture, on parlera après.
D'accord.
D'accord, c'est seulement un exemple. Je dis un mot de Torah. D'accord, je dis, voilà, par exemple, Torah ou Tfila, Blo Kavana. Voilà, je dis ce mot-là.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ça dépend, s'il n'y a pas de Kavana.
Ah, attends deux secondes, ça on l'a expliqué, mais on va analyser qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est une parole déjà? On a expliqué que la parole, c'est un élément neutre. Normalement, c'est impossible qu'un élément soit neutre. Ça n'existe pas. C'est où on est annulé à Kadosh Baruch Hu, et dans ce cas-là on est la Kdusha, ou on n'est pas annulé à Kadosh Baruch Hu, dans ce cas-là c'est le mal. Normalement c'est impossible. Ce concept-là n'existe pas en haut. Ça, on comprend pas ce que c'est. C'est où tu es annulé à Dieu, ou tu n'es pas annulé à Dieu. Ou tu es bon, ou tu es mauvais. C'est un élément neutre, c'est impossible. Donc si maintenant, on est arrivé à un niveau qu'on peut avoir des éléments neutres, comme ma parole, la parole qui est neutre, ça veut dire que la parole est descendue tellement bas, à un niveau que non seulement la lumière de Dieu est contractée, qu'il y en a très peu, mais à part ça, elle est voilée. Et puisqu'elle est voilée, c'est pour ça que ma parole est a priori neutre. Elle peut servir en bien comme en mauvais, comme en mal. Ça veut dire que la lumière de Dieu est contractée et voilée. Quand j'utilise ma parole, maintenant j'utilise mes mots pour former des mots de Torah. Ma parole, d'accord, mes paroles, les syllabes, le fait que je peux dire A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le fait que je peux parler. Quand je vais, avec ma parole, je vais composer des mots. Et que ces mots-là vont être des mots de Torah. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce qui va se passer, c'est que l'énergie qu'il y a dans ma parole, d'accord, au lieu d'être voilée et contractée, elle va monter chez Akadosh Baruch Hu.
Pourquoi?
Parce que quand je vais dire un mot de Torah, qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, cet élément-là ne sera plus neutre. Puisqu'il sera plus neutre, il va passer tout de suite dans le côté de la Kdusha. Puisqu'il passe dans le côté de la Kdusha, ça veut dire que déjà, la lumière, peut-être qu'elle est contractée, c'est possible, mais elle n'est pas voilée. Ce qu'on a expliqué, c'est quoi le concept du voile? Le concept du voile, c'est que quand on ne peut pas déterminer si c'est bon ou c'est mauvais. Une chose est sûre, c'est que là, la lumière n'est plus voilée. Très bien. C'est un peu compliqué aujourd'hui, hein.
Mais peut-être qu'elle est limitée, mais elle n'est pas voilée.
Peut-être qu'elle est limitée, c'est possible, mais elle n'est plus voilée. Parce que là, au moins, on est clair.
Pourquoi est-ce limitée? Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis?
Non, peut-être qu'elle est limitée parce que je comprends très très peu.
Ouais.
Elle est limitée, certainement. Mais elle n'est plus voilée. Au moins on est clair, au moins on est fixé. On sait si c'est bon ou si c'est mauvais.
D'accord.
Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire
que voiler, c'est savoir si c'est bon ou mauvais.
Voilà.
D'accord.
Donc quand Adam Arishon il a mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal,
oui.
Ça a été voilé.
Ça a été voilé, exactement. Oui, bien sûr.
Et c'est pour ça qu'il s'habillait avec peut-être un vêtement de peau.
Ça, je sais pas. Je vous dis comme ça. Donc maintenant, on va toujours analyser cette parole. Imaginez-vous que je compose des mots, donc je vais dire des mots de Torah, qui sont a priori censés passer du côté de la Kdusha. Mais, quand je dis ces mots de Torah sans Kavana, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, d'après vous? A priori, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça change quelque chose?
Oui, ça change quelque chose.
Qu'est-ce que ça change? Pour l'instant, d'après ce qu'on a expliqué, ça change rien, a priori.
Au niveau du voile, ça change rien.
Au niveau du voile, ça change rien, on est toujours fixé.
D'accord.
Donc ça peut changer simplement au niveau de...
La contraction.
Très bien. Là, la Morazaken nous explique. Avec ça, ça va être la clé, l'élément de la réponse. D'ailleurs, rappelez-vous la question qu'on a posée, on a dit comment c'est possible, comment on peut comprendre le fait que l'essence, que j'étudie l'essence de Dieu et qui me dit que ça monte pas en haut. Comment c'est possible? Là déjà, Edmond Zaken a dit, d'abord, oublie ton histoire montée en haut, pas montée en haut. Par rapport à Dieu, tout est la même chose. Premièrement. La seule différence, c'est par rapport au réceptacle. Par rapport au réceptacle. Et là, Edmond Zaken va expliquer comme ça. Que quand j'étudie des mots de Torah, avec ou sans Kavana, automatiquement, le voile est levé. Vous me suivez? Parce que c'est quoi le concept du voile? Le concept du voile, c'est quand c'est...
C'est vrai ou faux, on sait pas si c'est vrai ou faux.
C'est quand on sait pas si c'est quand c'est Klipat Nogan, on sait pas si c'est vrai ou faux. Donc, là maintenant, quand j'utilise des mots de Torah, j'ai utilisé les mots de ma bouche, la force que mon âme peut parler.
Comme la Torah l'aimait.
J'ai utilisé mon âme, Nefesh Achriyunit, elle a parlé, elle a dit des mots. Ces mots-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh, tout de suite, il n'y a plus de voile sur ces mots.
Il n'y a plus de voile.
Très bien. Maintenant, la seule question va être, est-ce que la lumière est contractée ou pas contractée? Et ça va être le rôle de la Kavana.
D'accord.
Ça va être la clé de la réponse, qui vient de Mozaken. Mozaken va dire que ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, chapitre 35, chapitre 37, on a expliqué que l'acte est toujours très important et qu'une mitzvah reste une mitzvah, peu importe la Kavana. Ça, c'est par rapport au quoi? C'est par rapport au concept du voile.
Voilà.
Ça, effectivement, il n'y a pas de différence. Mais par rapport au concept... Par rapport au concept de l'intensité, la Kavana va faire la différence.
D'accord.
Dans les mots. Là, je vous ai dit la piste de ce qu'on va faire.
D'accord. Donc, quand tu dis la contraction de la lumière, donc ça veut dire qu'il y a plus de lumière, nous, on pense à un mouvement du bas vers le haut, mais en fait, c'est pas forcément un mouvement du bas vers le haut, ça peut être un mouvement comme ça, quoi.
Il y a pas forcément
la lumière qui...
Là, pour l'instant, il n'y a pas forcément de mouvement. Il n'y a pas forcément de mouvement.
Non, parce qu'on dit que ça ne monte pas. Quand il n'y a pas de Kavana, ça
oui,
monte pas.
Exactement. Le concept du voile, il n'y a pas de mouvement dans le concept du voile. Il n'y a pas de... Le concept du voile, c'est qu'il y avait quelque chose qui voilait ce qui était déjà présent. C'est pour ça que j'ai eu l'exemple tout à l'heure du néon.
Oui,
il y a un néon, il est clair. Maintenant, moi, je mets maintenant, sur ce néon-là, je vais mettre une couverture.
D'accord.
Hein? Comme on a expliqué, quand on dit haut et bas, il n'y a pas de notion géographique. C'est pas géographique, c'est des dimensions.
C'est des dimensions, voilà.
Dimensions.
Ça.
D'accord? Voilà. Donc, il dit comme ça. Il dit, c'est pour ça, que chez Medaberet, divrei Torah, utfila blo kavana, quand une personne va dire de divrei Torah, on va dire des mots de Torah, et la, ou bien de la tefila, bloc kavana, sans kavana, af, shen, otiot, gdoshot, bien que ces lettres-là sont des lettres kadosh, donc en d'autres termes, s'ils sont kadosh, ça veut dire qu'il n'y a plus de voile. Très bien, hein. Klipat noga, shvenefesh achriyunit, masaf, avdil, klala, siru le chazak, gdoshotet ba'em, amloubeshot ba'em, et que la klipat noga qui se trouvait dans la nefesh, dans mon nefesh achriyunit, ne peut plus former de voile sur ces mots-là. Normalement, le rôle de la Klipat Noga, c'est de former le voile, de former ce flou. Quand je prends mes mots et je dis, quand je prends les lettres, je vais formuler des mots de Torah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Klipat Noga ne peut plus former le voile. Pourquoi? Puisque la Torah est vraie. Donc, il n'y a plus de voile maintenant. On sait que c'est vrai. Que j'ai la Kavana ou que j'ai pas la Kavana. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Si j'étais en train de parler, il va expliquer dans quel cas la Klipat Noga cache lui. D'accord? Si j'étais en train de parler, par exemple, des Dvarim Betelim. C'est quoi Dvarim Betelim, Yaakov? Des choses vaines. On parle pas des Daverot. Je parle pas du mal. Si je suis en train de parler d'Averot, là, encore une fois, il n'y a plus de voile, puisqu'on sait déjà que c'est du côté du mal. Tu vois? Il n'y a plus de voile, on sait que c'est mauvais. Là, je parle quand je parle Dvarim Betelim. Dvarim Betelim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des choses qui n'ont pas de valeur. Je dis quelque chose qui n'a pas de valeur, mais qui c'est ni une mitzvah, ni une avera. D'accord?
Je raconte ta journée, là.
Je raconte ma journée, voilà. Ni une mitzvah, ni une avera. Varim Betelim.
Ouais. Bon, maintenant, tu peux dire que...
Après, tu peux dire que ça peut former une mitzvah, mais bon, on va pas dire toujours une mitzvah. Des fois, Varim Betelim, c'est pas une mitzvah.
D'accord?
Très bien. Maintenant, on va dire que j'étudie, je fais mon shiur le matin, mon shiur le soir, donc, il y a pas, et que la Torah me permet de me reposer. Donc, je rentre chez moi à la maison, je me repose, et je parle avec quelqu'un, je discute. Je parle rien de mal, pas de la shonara, rien. Betelim, mais c'est des paroles en vain, c'est pas des paroles de Torah. Ça, c'est du pur Klipat Noga. C'est du pur Klipat Noga, ça veut dire que c'est voilé, c'est ni bon, ni mauvais.
C'est pas Bidouzman.
D'accord? Dépend, il y a certains cas, la Torah te permet de te reposer un petit peu. Quand je peux étudier, je me suis assez reposé, je peux étudier, là, on rentre dans Bidouzman, là, ça rentre déjà dans une Avera, Bitul Torah. D'accord? Mais là, on peut imaginer que pendant certaines minutes de la journée, il n'y a pas Bitul Torah. C'est pas Bitul Torah, je me repose, je me détends. J'appelle un ami au téléphone. Pas un ami au téléphone, je raconte, on parle. Maintenant, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de verra, il n'y a rien. Et des fois, pas toutes les discussions, on est en train de créer. Des fois, tu crées rien, ni tu fais une mitzvah, tu fais une avera. Qu'est-ce qui se passe quand c'est des Dvarim Betelim? Quand c'est des Dvarim Betelim, à ce moment-là, c'est Klipat Noga. C'est-à-dire que là, c'est là que le voile est en état de marche. Veshe benefesh achriyunit, shevishar balechaim ateorim. Ainsi que, on retrouve la même chose, ce même concept-là du voile, on le retrouve dans tous les animaux qui sont tahor, qui sont purs. Pareil, un animal qui est pur, maintenant tu fais ce que tu veux avec. Tu peux manger sans faire de bracha, et dans ce cas-là, ben, tu fais rien. D'un autre côté, tu peux aussi manger et prendre des forces sur une avéra. On peut aller très loin. D'accord ? Tu peux voler ça. Tu peux, je sais pas, ça peut aller très très loin. D'un autre côté, tu peux acheter comme il faut, comme un mensch, normalement. Tu achètes, d'accord ? Tu fais ta bracha dessus, et là, à ce moment-là, la viande passera du côté de l'Akdoucha. Donc encore une fois, mais tant que tu n'as pas fait ça, ça reste dans le côté du voile. Af, delet, atarpanou, miné. Là, la Mourazakan va expliquer ce qu'est ce concept du voile. On va ouvrir une petite parenthèse. Af, delet, atarpanou, miné. Bien que normalement, la question de Yaakov tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar dit qu'il n'y a pas d'endroit qui est vide d'Akadosh Baruch. D'accord? Ça veut dire que ça, non, contrairement à ce que le Gaon de Vilna expliquait, qui dit que Dieu, par exemple, le Gaon de Vilna disait, Dieu ne peut pas se trouver dans des toilettes. Et il expliquait pourquoi le Gaon de Vilna. La vie de la Chita de Mourazakan, la Mourazakan amenait des preuves. D'accord? Mourazakan dit, il amène la phrase du Zohar, que le Zohar répète souvent. Bon, le Gaon de Vilna a amené d'autres preuves aussi, hein. Que l'être atar panou miné. Qu'il n'y a pas d'endroit qui est vide d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Alors ça, ce qu'il expliquait de Mourazakan. Que le fait qu'il y ait un voile, le fait qu'il y ait un élément, par exemple une bouteille de coca, il y a un voile. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, c'est ni bon ni mauvais. Je peux l'utiliser pour prendre des forces pour faire une avera, et je peux l'utiliser pour prendre des forces pour Bezrat Hashem faire une mitzvah. Hein. A priori, ah, d'aller à tard, pas nominer bien que normalement il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'endroit qui est vide d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment on peut imaginer qu'il y a un endroit qui est neutre? Ça n'existe pas. Rad Morazakan a expliqué, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mikol Makom, quand même. I ou Stim ou Dechol Stimin. Akadosh Baruch Hu, on l'appelle le cachet des cachets. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu as raison. Normalement, tu poses une bonne question. Normalement, c'est impossible. Normalement, on ne peut pas imaginer un concept de Klipat Noga. Imagine un concept de Klipat Noga, c'est ou t'es annulé à Dieu ou t'es pas annulé à Dieu. Leit atar panu miné. Il n'y a pas d'endroit qui est vide d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que celui qui décide pas d'être annulé à Kadosh Baruch Hu n'a aucun droit d'exister. Seulement quoi? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Iustim ou dechol stimin. Akadosh Baruch Hu est caché de ceux qui sont cachés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde ici-bas, il a créé un concept que des fois, lui-même, il casse ses limites. Normalement, ça devrait pas exister quelque chose comme ça, qu'il y ait un élément neutre. Dieu, pour pouvoir nous donner libre arbitre, il a créé ce concept-là, il a cassé ses propres concepts. Venikra kel mistater. Kadosh Baruch Hu est appelé, donc c'est toujours, on est toujours dans la parenthèse, hein, je vais expliquer après. Venikra kel mistater, dans Isaïe. D'accord. Donc il dit comme ça. Dans Isaïe, Kadosh Baruch Hu est appelé Venikra kel mistater. Kadosh Baruch Hu dans Isaïe est appelé, on nous dit que c'est un dieu qui se cache. Ça c'est le concept qu'on a expliqué. Le concept qui se cache. Vérité, tout à l'heure, on a traduit ça par se voiler. Kadosh Baruch Hu se voile. Et les commentaires expliquent que quand on parle de voile, on a deux types de voile. C'est comme on a...
Il y a deux types de voile maintenant?
Oui.
Wow.
Ah, ça va compliquer encore.
Ah oui, déjà, bon, c'était... Autrement dit, si j'ai bien compris,
attends.
Tu prends une poignée de terre...
Attends, j'explique d'abord ce que c'est voilé. On va prendre un exemple, d'accord? On va prendre un exemple. Imagine-toi, Yaakov, que tu as un message à faire passer à quelqu'un. D'accord. Un message à faire passer à quelqu'un qui est à New York. Tu veux le faire passer par moi. D'accord. Deux manières. Mais seulement, tu veux pas que moi je sache le message.
Ah.
Alors, comment tu vas t'y prendre? Dans une enveloppe. Maintenant, je veux pas que... Non, toi, Yaakov, t'as peur que je vais ouvrir l'enveloppe.
D'accord.
Qu'est-ce que tu vas faire?
J'ai un code avec la personne.
Tu vas coder ton message.
Je vais coder mon message.
Très bien. Dans ce cas-là, tu vas coder ton message. Ça veut dire que, ça veut dire d'autres termes, tu vas coller ton message, tu vas verrouiller ton message, mais bon, si moi je suis assez intelligent, je peux peut-être réussir à décoder le message. Ça, c'est une première méthode. C'est une première méthode de cacher. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contracter, d'accord? Tu vas contracter ta lumière, tu vas contracter ton message de manière à ce que c'est difficile à décrypter. Deuxième manière de cacher.
Donc là, contracter, ça veut dire cacher.
Voilà. Deuxième manière de cacher, c'est encore plus fort que ça. Et ça, c'est la manière comment Kadosh Baruch Hu cache. C'est que tu vas me le dire directement à moi, le message. Mais seulement, ça va être tellement profond que je vais jamais comprendre. Ça, c'est le plus fort. Ça veut dire que toi, tu vas dire, mais vas-y, je te dis, moi, je te cache rien. Là, je te dis, écris-le, voilà, je te dis tout, je t'ai tout dit. Mais en vérité, la personne, il croit qu'il a compris, mais en vérité, il a rien compris.
Ah, d'accord, par exemple, on va donner un exemple.
Donc, pour l'exemple du message, voilà. Par exemple, dans le message, d'accord, moi, j'envoie un message, a priori, qui est anodin, d'accord. Le shliach, celui qui va faire passer le message, il est sûr qu'il a tout compris. En vérité, il n'a rien compris.
Bon, c'est un exemple.
Ça, c'est deuxième type de voile. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu rentre dans ce deuxième type de voile. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il se voile, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas présent dans le monde. C'est qu'Akadosh Baruch Hu est tellement présent qu'on ne le voit pas, qu'on peut pas le voir. Vénikrakel mistater. Et ça, avec ça, la Gemara Zaken veut expliquer comment on peut avoir quelque chose comme la Klipat Noga. Comment c'est possible la Klipat Noga? Comment c'est possible qu'il y ait des éléments qui sont neutres? C'est possible. Il pose la question, il dit, mais voilà, le Zohar, il dit, Leit Atar Panuminé. Il n'y a pas d'endroit qui est vide d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible qu'il y ait des éléments qui sont neutres? C'est pas possible.
Donc neutre, ça veut dire alors?
Neutre, ça veut dire que ça peut être pour Dieu ou ça peut être contre. C'est pas possible.
C'est pas ça que ça veut dire neutre.
Normalement, nous, on comprend. Quand tu me dis qu'il y a du bien et du mal, je comprends. Il y a ce qui est pour Dieu, ce qui n'est pas pour Dieu. Ça, je comprends. Ça veut dire que tout représente la volonté de Dieu.
D'accord.
Mais l'élément neutre, ça dérange. D'accord? Parce que quand tu me dis qu'il y a un plus, un moins, un qui est pour Dieu, un qui est contre Dieu, là, je comprends. Je comprends. Mais un élément neutre, quelque part, c'est-à-dire c'est un élément qui n'appartient pas à Dieu.
Est-ce qu'il est vraiment neutre?
Oui. C'est ça que les patnogas. À la limite, comme l'Admorazaken explique dans d'autres endroits, à la limite, la Klipat Noga, c'est encore plus grave que le mal. Pourquoi? Puisque, quand au moins on est fixé, on sait que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Donc on sait. Ok, c'est Dieu qui a créé le mal, mais on sait que ça c'est pour Dieu, ça appartient à Dieu, ça c'est pour Dieu, et ça, Dieu n'aime pas. Comment on peut imaginer qu'il y a quelque chose dans le monde qui n'appartient pas à Dieu, entre guillemets? Puisque tu me dis c'est neutre, donc ça veut dire ça peut appartenir à Dieu comme ça peut ne pas appartenir à Dieu. Comment c'est possible? Quelle est la réponse? La réponse est dans le verset d'Isaïe.
Voilà.
Quel mystère! C'est un Dieu qui se voile. Mais comment il se voile?
C'est-à-dire
comment il se voile?
Que c'est nos gars.
Comment il se voile? Seconde, écoute bien comment il se voile. Il se voile pas en enlevant de la lumière. Il se voile en te mettant tellement de lumière que toi tu crois que t'as compris, mais en vérité t'as rien compris. Et du coup, quand on te pose la question, on dit alors lumière ou obscurité? Je dis je sais pas. Mais pourquoi tu sais pas? Voilà, je t'ai tout dit, je t'ai tout mis de l'écart devant toi. Qu'est-ce qui te passe? Je sais pas. Pourquoi? Parce que quel mystère, Dieu se cache dans la deuxième méthode.
Parce qu'on est aveuglé par la lumière.
Exactement,
donc,
oui.
Donc c'est pas.
Très bon exemple.
C'est pas de la Noga alors?
C'est pas?
Finalement.
Si. C'est de la Noga.
Tu crois que c'est de la Noga?
Ah, bien sûr, ça on a expliqué. Mais Malek Olamin Béchavé, Dieu remplit tous les mondes de manière égale. L'émanation de Dieu reste la même.
D'accord.
La seule différence, c'est le réceptacle, celui qui reçoit.
Alors,
et là, le réceptacle, il reçoit tellement de lumière, comme Camille a dit Julien, qu'il est aveuglé par la lumière, donc du coup, comme il est aveuglé, il voit rien. Tu dis, mais qu'est-ce que tu vois? Je dis, mais je vois, mais comment c'est possible que tu vois rien? Il y a beaucoup de lumière. Eh bien, il voit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de lumière. Ça, c'est le plus grand esther qui cache. Et d'ailleurs, c'est de manière générale, quand on veut faire passer un message, quand on veut crypter un message, la meilleure manière de crypter un message, c'est quand, même s'il y a une personne qui va réussir à le décrypter, il comprendra pas ce qu'il a écrit. Il va croire qu'il a compris ce qu'il a écrit, mais en vérité, le message qu'il y avait derrière était...
Faut que l'émetteur et le récepteur, ils ont le même niveau, alors.
Il faut que quoi?
Que l'émetteur et le récepteur, ils ont un niveau supérieur.
Ah oui.
À celui qu'au
comme,
milieu.
C'est comme dans les guerres, par exemple, on a vu dans la Seconde Guerre mondiale, on a vu que, il y avait des messages qui étaient passés par la radio. Je parle pas des messages comme les carottes sont cuites. Je parle des messages qui étaient passés. Ça veut dire on disait par exemple si on va annoncer les informations comme ça, si on dit tel mot dans les informations, ça voudrait dire ça. Maintenant, les gens qui écoutent les informations, ils se doutent pas une seconde. On leur a tout dit, on leur a mis les cartes devant eux. Ils se doutent pas une seconde parce que ça c'est un vrai esther. Ça c'est vraiment caché. C'est tellement caché que même si on te donne toutes les cartes devant, tu peux rien faire avec. Parce que tu peux même pas te douter de ce que Kadosh Baruch Hu est en train de cacher. Ça, c'est Klipat Noga. C'est ça ce qui crée Klipat Noga.
D'accord. Donc,
qu'est-ce qui crée Klipat Noga? Ce qui crée Klipat Noga, c'est cette chose-là. C'est quand Akadosh Baruch Hu est tellement lumineux que, du coup, on sait même plus si c'est la lumière ou l'obscurité. Ça, c'est crée Klipat Noga. Vega, oui.
Excuse-moi, comment on peut faire la différence alors? Puisque là, visiblement, on parle, enfin, moi, ce que je comprends, c'est qu'on parle d'intensité de lumière. Là, on dit qu'il met tellement de lumière que c'est voilé.
Oui.
Donc là, est-ce que les deux ne se rejoignent pas?
Non, non plus. Non, parce que là, non plus. Ils ne se rejoignent pas les deux. Parce que le peu de lumière qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer, il va le mettre de manière tellement, on va dire, cryptée, que même si toi tu crois que tu l'as compris, tu ne l'as pas compris. C'est pour ça que je donnais l'exemple du messager qui fait passer un message crypté.
D'accord,
peut-être c'est toi qui a donné l'exemple avec la lumière, aveuglée par la lumière. Mais ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que Akadosh Baruch Hu va nous faire passer, va créer quelque chose dans le monde de manière tellement cryptée, que quand tu le vois, tu ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Par exemple, j'ai un verre devant moi. D'accord? Je sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Je peux faire beaucoup de choses avec. Je peux faire des mitzvot, je peux faire des averroches. On peut faire des tas de choses avec un verre. En vérité, dans le verre, il y a une étincelle de la Kadosh Baruch Hu. Comment on peut imaginer qu'avec un verre qui est une étincelle de la Kadosh Baruch Hu, le verre peut servir à faire une avera? C'est pas possible, il y a un problème. Comment c'est possible? Là, on a la réponse. C'est que dans le verre, mis à part le fait qu'il y a très peu de lumière, le peu de lumière qu'il y a est flou. Et donc, comme il est flou, quand moi je prends le verre dans ma main et je le regarde, je vois ni bon ni mauvais. C'est en vérité, c'est pour créer le. C'est une illusion, ça. C'est une illusion qu'Akadosh Baruch Hu crée.
Donc c'est bien un monde d'illusion.
C'est une illusion, bien sûr. Matrix.
C'est
une illusion qu'Akadosh Baruch Hu a créée pour qu'on puisse avoir le libre arbitre.
Bonjour, je t'ai dit ça, tu m'as dit non, le monde est réel.
Non, le monde est réel. Bien sûr que le monde est réel. Mais ce concept de Klipat Noga, ce concept-là qu'on ne sait pas sur certaines choses s'ils sont bonnes ou mauvaises, ça c'est une de la pure religion.
Hachem, il sait si c'est bon ou mauvais.
Bien sûr.
Et nous on peut savoir.
C'est impossible, il y a impossible. Il n'y a rien dans le monde qui peut être neutre. Leit atar panui miné, dit le Zohar. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui est vide de lui. Même le mal, c'est Dieu qui le crée. Et le fait que toi, tes justes paraissent mauvais, c'est parce que Dieu a voulu que tes justes paraissent mauvais. C'est un monde d'illusion. On vit dans un monde d'illusion.
Mais fondamentalement.
Fondamentalement, oui. Fondamentalement, c'est ça.
C'est mauvais ou pas?
Bien sûr que c'est mauvais. Bien sûr que le mal, le mauvais est mauvais. Parce que c'est Dieu qui a décidé que bien que le mauvais est mauvais, que normalement il n'a pas lieu d'être dans le monde, moi je veux qu'il reste dans le monde.
Mais donc c'est du bien quand même, puisque c'est la Kadosh Baruch Hu.
C'est pas du bien. En haut, le mal n'aurait pas eu lieu d'être. Mais en bas, Dieu, normalement, en bas aussi, il n'aurait pas eu lieu d'être. Bon. C'est Dieu qui a voulu, il a dit, en bas, je laisse le mal exister, c'est moi qui le crée. Je crée quelque chose qui est contre ma volonté. Pourquoi? Pour créer le libre arbitre. Oui. Mais là, on a appris qu'il y a un troisième paramètre. Mis à part le bien et le mal, il y a la Klipat Noga. Klipat Noga, c'est ce qui est neutre. C'est encore pire ce qui est neutre. Vous savez, comme on a vu, comment le prophète Élie, il y avait un certain moment, le peuple juif, ils adoraient Dieu, ils adoraient les idoles. Oui. D'accord? Les deux.
On connaît.
D'accord? Qu'est-ce qu'il leur a dit, le prophète Élie? Il leur a dit, Admatai et Temposri Machnasisim. Jusqu'à quand vous allez, comme on dit en yiddish, il y a un proverbe qui dit, Tanton Afalechasne, c'est-à-dire danser à tous les mariages. Ouais. Jusqu'à quand vous allez danser à tous les mariages? Jusqu'à quand vous allez, comment on dit en français, on dit, aller sur tous les fronts, je crois, il y a une expression avec.
Manger à toutes les gamelles, aller sur tous les fronts.
Je sais pas.
Avoir les fesses entre deux chaises.
Jusqu'à quand vous allez faire ça? En vérité, le Klipat Noga, c'est le plus dur. Parce que c'est pas défini, on ne sait pas si c'est bon ou c'est mauvais. D'où vient Klipat Noga? Klipat Noga vient du voile. Vegam ahara vaitashut achayut menuit barer. On n'a pas fini la parenthèse encore. Mistateret bilvushim umasachim rabim vaatsumim ad shenitlav shavenistatra bilvush noga. D'accord? Donc c'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que le peu de lumière que Kadosh Baruch Hu a donné, non seulement que Kadosh Baruch Hu a donné ce peu de lumière-là, mais en plus, ce peu de lumière a été voilé. Alors, Rav Steinsaltz, ici, il donne un exemple très intéressant. Il dit, il y a des choses dans le monde qu'on ne voit pas, mais qu'on peut sentir. Par exemple, je vous donne un exemple. L'électricité, est-ce qu'on peut voir l'électricité? Non, on peut voir l'électricité. Ça se voit pas l'électricité. Même si on voit pas l'électricité, on peut sentir l'électricité. Ça veut dire, on peut voir l'effet que a l'électricité sur le monde. Par exemple, on voit qu'une personne peut être électrocutée. Même si on ne voit pas l'électricité, ça veut dire que nos yeux ne sont pas assez... Je sais pas, on voit pas. En tout cas, nos yeux ne sont pas conçus.
Ils ne sont pas conçus
pour voir l'électricité.
Bien sûr,
ils ne sont pas conçus pour ça. Mm-hmm. Et pourtant, on peut sentir l'électricité. Alors, a priori, ça aurait dû être la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Même si on ne voit pas Kadosh Baruch Hu, on aurait dû le sentir. On aurait dû avoir des phénomènes dans le monde qui font que quand tu fais ça et ça, tu sens Dieu.
Qu'il est contracté.
Comme l'électricité. Même si je vois pas l'électricité, mais je sais que si je fais certaines choses, je sais que si je mets le plus et le moins ensemble, ça saute. Donc il y a quelque chose, je vois quelque chose. Pourquoi on n'a pas ça chez Kadosh Baruch Hu? Pourquoi on voit pas dans le monde, et pourquoi il n'y a pas un signe dans le monde qui fait que quand tu fais A plus B, obligé de sortir à C? Pourquoi il n'y a pas ça? Parce que mis à part le fait que c'est contracté, à part ça, c'est voilé. Mistateret bilvush umasachim rabim vaatsumim ashin kevshav listara bilvush noga. Tout ça c'est valable quand c'est klipat noga. On se referme la parenthèse. On va reprendre mes mots de Torah. Je suis en train d'utiliser ma bouche qui est neutre. D'accord? Le fait que je peux parler, le fait que je peux dire des syllabes, des mots, des phrases, c'est neutre. Je vais utiliser cette force-là et je vais formuler des phrases de Torah. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Julien? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a enlevé? Le voile ou la contraction?
Non, là on a enlevé le voile.
Le voile. Pourquoi on a enlevé le voile? Parce qu'on l'est fixé. Maintenant on est fixé, on sait que c'est du bien. Alors il dit mach en ken botiot avec de chercher du vrai Torah ou de fil à quand on étudie ou on prie donc avec des lettres qui deviennent kadosh à ce moment-là on n'a plus le voile d'adraba au contraire klipat noga mitlamita perhet letov qu'à ce moment-là c'est plus neutre et non seulement que c'est plus neutre on est fixé on sait que ce qui était neutre s'est transformé en bien. Venir chlalet bigdusha zokanit karleel comme on a expliqué chapitre 35 chapitre 37 non seulement que ça reste pas, non seulement qu'on la met pas en veilleuse, mais au contraire. Cette force-là, cette énergie qui était Klipat Noga, est déifiée, c'est ça? Elle devient bien, elle devient Dieu. Nicole Macom et tout, ça c'est valable pour le voile. Ah, tu as raison. Chapitre 35, chapitre 37, que fais la mitzvah, quoi qu'il en soit. Ce qui compte, c'est de faire la mitzvah. Mais ça c'est par rapport au voile. Là tu as raison par rapport au voile, quand tu fais une mitzvah, avec, sans kavana, même si on t'a forcé pour faire la mitzvah, dans les faits, tu as fait quelque chose de bien. La Torah est toujours vraie. La Torah, c'est notre seule manière de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, tu as fait du vrai. Tu as fait du bien. Le voile a été levé. Mais Mikol Makom quand même. Arashbem, Mikdushato Itbarer, la lumière qui a en eux, Mikdushato Itbarer de la Kdusha de Dieu. Donc là, on parle de la contraction. Ibiprinatim, Tsumatsaharon. Elle reste toujours contractée. C'est pas pour autant que la lumière, il y a plus de lumière, il n'y a pas plus de lumière. La Torah a toujours été la même Torah. Et comment on voit que c'est contracté? Je vous donne un exemple très simple. Un livre, je vous donne l'exemple du papier tout à l'heure. Ce livre-là, on a imprimé, d'accord? Un livre kadosh. Est-ce qu'un livre a une odeur? Est-ce que quand je prends un livre kadosh et un livre qui n'est pas kadosh, est-ce qu'il y a une différence entre les deux livres? Il n'y a pas de différence. Prendre un livre tamé et un livre kadosh, d'accord? Un livre dans lequel il écrit des bêtises, des paroles de Touma, des Averot, et un autre livre dans lequel il y a des mots de Torah, les deux livres sont les mêmes, c'est le même papier, c'est la même encre, c'est le même imprimeur. Tu le sens et il aura la même odeur. C'est la même chose. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que même si moi maintenant je sais, avant quand il y avait le papier sans rien, on n'était pas fixé. On savait pas si c'était bon ou si c'était mauvais. Maintenant, une fois que tu as écrit des bonnes paroles ou des mauvaises paroles, on est fixé. On sait si le livre est bon ou le livre est mauvais. Très bien. Mais c'est pas pour autant qu'il y a plus de lumière. Il n'y a pas plus de lumière. Le livre reste ce qu'il était. La preuve, comme je dis, l'odeur n'a pas changé. La preuve, d'accord? Il n'y a pas plus de gdoucha, on sent pas, quand une personne est en train de dire des bêtises, en train de dire des paroles de Touma, et quand une personne est en train de dire des paroles de Torah, si on prendrait un oscilloscope, ce qui analyse les mots, c'est un oscilloscope? Ça?
Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est quelque chose, des fois on parle, tu vois, on parle devant un appareil, oui. Et l'appareil il te montre comment ça, les ondes ils montent.
Un
oscilloscope, c'est ça? Si tu prends un oscilloscope, tu vas essayer de comparer quand tu es en train de dire des mots de Torah ou des bêtises,
oui.
L'oscilloscope il va réagir de la même manière. Même chose. Même chose. Ça sera la même chose. Pourquoi ça sera la même chose? Normalement, pourquoi? Comment tu peux dire que c'est la même chose? Si tu me dis que là maintenant on a découvert que c'est les paroles de Kdusha, alors ça devrait changer. Non, ça change pas. Parce que la seule chose qui a changé, c'est le concept du voile. Mais la lumière reste toujours contractée. Et puisqu'elle est contractée, ça veut dire qu'elle restera toujours la même. Ça bouge pas. Très bien.
D'accord.
Je m'explique. Mais achar, shakol ve'adibur ou gashmi. C'est ce qu'il dit ici. Puisque la voix reste gashmi, reste matérielle. C'est vrai que, ça veut dire que il y a plus le voile, mais ça reste toujours matériel. C'est pour ça d'ailleurs, avec ça on explique comment ça se fait que Rabbi Meir, vous savez que Rabbi Meir a continué à étudier chez son maître Elisha ben Avouya, même quand Elisha ben Avouya a mal tourné. Pourquoi il a bien étudié? Pourquoi il a continué à étudier? Parce qu'on disait que Rabbi Meir, il disait, moi, j'étudie pas la Torah de Elisha ben Avouya. Moi, c'est, pour moi, c'est comme si que Elisha ben Avouya contient quelque chose, contient de la Torah. C'est un livre dans lequel il y a la Torah qui est écrite. Et moi, j'étudie de ce livre. Bon, il faut être au niveau de Rabbi Meir pour savoir quand il faut s'arrêter. D'accord? Bien sûr, parce que sinon, après, l'autre, Elisha ben Avouya, il peut inventer. Elisha ben Avouya était honnête, c'était pas un menteur. D'accord? Très bien. C'est le même concept que je viens d'expliquer. On va analyser maintenant ce monsieur Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'est un tzaddik. D'accord? Elisha ben Avouya, à ce moment-là. A priori, à ce moment-là, il est devenu mauvais. Il est devenu mauvais. Qu'est-ce qu'on te dit? Rabbi Meir continue à étudier chez lui. Pourquoi continue à étudier chez lui? Parce qu'il te dit, le degré de contraction qu'il y avait avant et après est toujours resté le même. Seulement avant, c'était bon, maintenant c'est devenu mauvais. Bon, parce que maintenant, il veut mal utiliser ça. Très bien. Mais la Torah est restée la même. C'est pas parce qu'il a arrêté d'être religieux que la Torah qui est en lui n'est plus bonne. La Torah qui est en lui est toujours bonne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec l'exemple. C'est un exemple que le Rav Senzel s'amène ici.
Ce qui veut expliquer. Il y a eu un voile, c'est ça?
Non. Voile, non. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de voile. Avant, c'était bon, maintenant, c'était mauvais.
Voilà, c'était clair.
Ça a toujours été comme ça. La seule chose qui a... Mais la lumière qu'il y a dedans, la lumière que contenait ces paroles de Torah, est toujours restée la même. Ces connaissances sont toujours restées les mêmes. Ils sont intactes, ces connaissances.
Tu vois ces exemples, c'est bon.
Bon, on avait plusieurs exemples aujourd'hui. Non, par exemple, il dit aussi, normalement, il amène beaucoup d'exemples sur ce concept-là, parce que c'est un concept qui n'est pas facile à comprendre. Il dit, normalement, un Sefer Torah aurait dû voler dans les airs. Si on savait la Kdusha qui est dans un Sefer Torah, un Sefer Torah aurait dû être en train de voler dans les airs. Impossible qu'un Sefer Torah reste posé. Il y a une Kdusha tellement grande, il ne peut pas tenir sur place. Porer, bah, viens. Et c'est pour ça qu'on voit des fois les tzadikim, quand ils passent à côté d'un Sefer Torah, ils sentent comme si que ça vole. Je dis, mais ça vole rien, le Sefer Torah n'a pas bougé. Parce qu'en vérité, dans une dimension spirituelle, le Sefer Torah vole réellement. Il est en train de voler. Seulement quoi? Puisqu'on vit dans un monde gashmi, on vit dans un monde matériel. Donc même si on est fixé, on sait que le Sefer Torah c'est kadosh. On est bien d'accord. Avant c'était une peau de vache, maintenant c'est devenu kadosh, hein, Sefer Torah.
Oui.
Mais c'est pas pour autant qu'il y a plus de lumière dedans, il n'y a pas plus de lumière. La lumière est toujours contractée. La preuve, le Sefer Torah est toujours resté parchemin, est toujours resté un parchemin normal. Et la preuve, un goy qui va passer à côté d'un Sefer Torah ne verra pas la Kdusha. Moi, je sais qu'il y a une Gdusha parce qu'on me l'a dit, mais quelqu'un qu'on n'a jamais dit, il ne saura pas. Alors, juste récemment, il y a quelques mois, une dame qui est venue au Beit Rabban, elle m'a dit, voilà, je sais, vous êtes une synagogue ici, une dame qui habite dans l'immeuble, là, dans l'immeuble ici, dans la cité. Elle est venue me voir, elle m'a amené une photo que son frère lui a envoyée par Internet. D'où vient son frère? C'est du Maroc, je crois que c'était Marrakech, ou je sais plus, ou Rabat, je sais plus quelle ville c'était. Il lui a envoyé une photo, il a acheté ça chez un antiquaire, dans le marché, ou je sais plus, il a acheté chez un antiquaire. Il a dit, son frère, il a acheté un rouleau de parchemin, il a déroulé, il fait 30 mètres. Et elle a montré la taille, c'est un Sefer Torah. Alors elle lui a dit, et il a pas trouvé de rabbin là-bas pour demander, d'accord, bon, vous voulez pas aller à la synagogue, je sais pas en tout cas. Donc, elle a demandé, elle m'a dit, est-ce que vous savez ce que c'est? J'ai dit, bien sûr, c'est... elle m'a montré la photo tout de suite, j'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on montre dans la photo? Dans la photo, elle m'a montré la photo que du, qu'on appelle ça, du parochet, d'accord, parochet du Sefer Torah. Mais j'ai vu tout de suite, c'est un Sefer Torah. Tout de suite, j'ai remarqué que c'est un Sefer Torah. C'était même écrit, offert par un tel, etc. Alors, je lui ai dit, 30 mètres en plus, c'est la taille à peu près dans Sefer Torah. Bon, alors, je lui ai expliqué, on s'est renseigné, bah, au Hachem, il y avait une synagogue à Rabat. Bon, Bezrat Hachem, j'espère que c'est entre de bonnes mains. Pourquoi je raconte cette histoire-là? Pour dire qu'on voit que, pour un goy, quand il a vu le Sefer Torah, il a pas senti quelque chose de kadosh. D'ailleurs, ça m'a fait de la peine, parce qu'il m'a dit, mon frère, il a déroulé par terre, pour le mesurer, etc. Alors, je me suis imaginé, j'allais pleurer, je me suis imaginé un goy en train de dérouler un Sefer Torah par terre pour le mesurer. Ça fait mal au cœur. Ça tue. Pourtant, le goy n'a pas senti. Pourquoi? Parce qu'un parchemin, ça reste un parchemin. Ça veut dire que même si le voile a été enlevé et que nous on est fixé, on sait que c'est des paroles de Kdusha, mais c'est pas pour autant que la lumière reste autant contractée. Dans les mots.
Ah oui, d'accord. Ah oui, alors oui.
Ah, Valmé, Bitfil avec Havana.
Je comprends l'histoire du Bachantov, alors quand je crois que c'était le fameux Maguid de Maîtrise au début.
Oui.
C'était pas encore le Maguid. Il a dit, tu connais le Zohar? Alors le Maguid, il a dit, oui. Allez, vas-y, dis-moi le passage. J'ai eu le passage. Et alors tu peux m'expliquer? Il a expliqué. Il a dit, bon, c'est bien, mais le Zohar, c'est pas ça. Il s'est mis à lire le Zohar, à ce moment, il y a des flammes qui sont sorties, l'autre, il est tombé dans les pommes. C'est ça, en fait.
Bien sûr, c'est ça. C'est que là, on a quitté, ça veut dire, avant, on n'avait pas de élève, on n'a jamais eu le voile, parce qu'il étudiait le Zohar.
Et oui.
Mais avant, il y avait de la contraction.
Et oui.
Et qu'est-ce qu'il fait, le tzadik, il faut être au niveau de Maguid de Meseritch. Il a débridé.
Et
il
dit,
voilà, maintenant, je vais te montrer la force que ça a. Et le gars, il n'a pas tenu. Enfin, le gars, Maguid de Meseritch. Ah, Valmé, Bitfila, Bekavana, Vetora, Bekavana, Nishma, quand on fait, bon, ça c'est un concept qu'on étudiera.
Ouais, mais si je confirme l'exemple du Malchador.
On étudiera plus la...
C'est mieux que le Sanzas pour comprendre ce que ça veut dire quand ça sort.
Non, j'ai un exemple que je lis avec le Sefer Torah de Rabat. Ah, on le voit vraiment, ça. Je promets, ça m'a fendu le cœur, mais je me suis dit, ça veut dire quoi? Ça illustre l'idée que j'ai dit. Qu'un Sefer Torah, d'accord, même s'il prend une doucha, mais dans les faits, le Sefer Torah ne change pas, ça reste un parchemin. Et pour un antiquaire, il voit rien, parce que vraiment, il n'y a rien. Tel qu'on voit en bas, dans le monde des illusions qu'on voit en bas, il n'y a rien. Seulement nous, avec l'éducation qu'on a eue, comme on sait, qu'on a compris, etc., on voit rien. Dans le monde de Assia, on voit rien. Mais sûr qu'après un tzadik, que lui, il peut arriver à la dimension de Bria, etc., lui, il va voir des choses que nous, on voit pas. Mais moi, qui est dans le monde d'Assia, quand je vois un Sefer Torah, je vois rien.
D'accord. Mais quand on a vu l'autre jour, que dans le cours précédent, que le but de l'homme sur la Terre, c'était de faire une résidence pour que Dosh Baruch Hu. Est-ce que ça veut dire
très
que...
Bien, très bonne question.
Est-ce que ça veut dire que ça, c'est au niveau de...
question ce que tu poses. Faut savoir comme ça. Faut savoir que... C'est très bonne question. Et comme tu poses la question, tu dis a priori, ce qu'on est en train d'expliquer ici, ça casse tout ce qu'on a expliqué dans le chapitre 36. Dans le chapitre 36, on a dit que le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est d'Irabé Tartonim, pour en bas. On a dit qu'en bas, c'est là que Dieu va se révéler. Donc, a priori, c'est-à-dire que tout est en bas. Et là, je viens de dire le contraire. Je suis en train de dire que le contraire, que rien n'est en bas. En bas, on voit rien. En bas, le parchemin reste un parchemin. Ça, là, tu poses une très bonne question. La réponse, on va l'expliquer après, mais en vérité, on peut déjà la dire depuis maintenant, puisqu'on la comprend déjà maintenant. La réponse, c'est qu'en vérité, quand Mashiach va venir, c'est là qu'on va découvrir qu'en vérité, tout était en bas. Et qu'en vérité, en bas, Dieu était plus présent qu'en haut.
Oui, au niveau de son essence,
c'est bien. Mais ça, c'est seulement quand Mashiach va venir. Mais tant que Mashiach n'est pas venu, c'est pas le cas. C'est le contraire.
Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit faire ça? Au niveau du Shimsum?
Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, là, va jouer le rôle de la Kavana.
Ah, d'accord, la Kavana. C'est libérer cette lumière.
Ah, Val, mais Bitfil, mais ça, on expliquera plus la semaine prochaine, parce qu'il faut bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire, comment la Kavana débride. Il faut mieux expliquer. Ouais. Parce que la Kavana, on va expliquer la semaine prochaine qu'elle a un double rôle. Elle a un rôle pour la personne, pour que la personne se sente plus engagée, et elle a un rôle par rapport à Kadosh Baruch Hu, pour que la mitzvah monte. Ça, c'est un point qu'on devrait expliquer.
En quoi ça sert
la Kavana débride? Ça, on va expliquer.
Et pourquoi faut qu'elle monte?
Ça, c'est le Zohar qui le dit. Le Zohar dit que c'est les ailes, c'est les ailes.
Oui, mais c'est pas les ailes qui montent, c'est les ailes qui enlèvent cette contraction.
Oui,
qui décontracte.
Oui, j'ai compris. On a dit que c'est pas physique.
Eh oui, mais c'est pas physique. Ouais, mais on a beau le dire, des fois tu t'imagines toujours que c'est physique.
Oui, j'ai compris.
On est habitué.
Ah, valmé, bitfila, avec Kavana, avec Torah, avec Kavana, Lishma. Quand j'étudie, quand je fais une tfila avec Kavana, et je fais la Torah, avec Kavana, Lishma, Aréa Kavana, mitlepshet, botiata dibou, oh il, vei mekor ou shereshlaem, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La kavana va s'habiller dans les lettres, et que grâce à cette kavana, ça va monter en haut. Ça, on va expliquer la semaine prochaine. Je m'arrête tout de suite ici, parce que la semaine prochaine, on va expliquer que la kavana, ça provient d'un certain niveau. La kavana, ça va provenir de Yetira, ça va provenir de... On l'a dit, la vérité, dans le père avec la même tête. Et ce qu'on va expliquer, c'est que quand je fais une mitzvah avec kavana, la mitzvah peut monter au même niveau que la kavana. C'est-à-dire que si la kavana vient du monde de Bria ou de Yetira, comme ce qu'on a expliqué, j'ai la possibilité de faire monter la mitzvah, donc de décontracter, de débrider la mitzvah, pour que la mitzvah puisse monter en haut. Alors bien sûr, on revient à ce qu'on a expliqué dans le chapitre 36, quoi qu'il en soit, même sans kavana, il faut faire une mitzvah. Pourquoi? Parce que quand Moshé reviendra, on découvrira que le but était en bas. Mais entre-temps, le temps que Moshé n'est pas venu, qu'est-ce qu'il nous dit le roi Salomon? Maïtron la dame bihola maloshiyamol tachatashemesh. À quoi ça sert tout ce qu'on a travaillé sous le soleil? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'entre temps, ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous, Akadosh Baruch Hu dit, il faut enlever le voile et enlever la contraction.
Les deux.
Enlever le voile, comment j'enlève le voile? Ça c'est quand j'ai pris quelque chose qui était neutre et je l'ai rendu mitzvah. Enlever la contraction, comment je fais?
Ça c'est la Torah.
Ça c'est quand je fais avec Kavana. Okay. Bon, on a eu beaucoup de notions aujourd'hui. C'est pas simple. Donc je vais juste résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, on a commencé par poser une question. On a dit, a priori, let atar panu miné. D'accord? Non, pardon. Oraita avec kuchavriro kularal. On dit, Dieu et la Torah sont une seule chose. Puisque Dieu et la Torah sont une seule chose, donc, on a posé la question. On a dit, comment on peut concevoir le fait qu'il y a certaines Torahs ou certaines mitzvot qui restent bloquées en bas? C'est pas possible. C'est impossible. Toujours, on nous apprend que la Torah, c'est l'essence de Dieu. Alors, si c'est l'essence de Dieu, ça peut pas rester bloqué en bas. Possible, l'essence de Dieu, Dieu c'est une seule chose, c'est une seule entité. Qu'est-ce que ça veut dire que ça reste bloqué en bas? Et là on a expliqué plusieurs concepts. Premièrement, on a expliqué que par rapport à Kadosh Baruch Hu, tout est la même chose. L'émanation de Dieu est la même partout. La seule différence c'est par rapport au réceptacle. Et la différence se forme sur deux plans. C'est quoi les deux plans, Yaakov? Premier plan, c'est...
La contraction.
Ça veut dire, est-ce que tu as beaucoup de lumière ou un peu de lumière?
Deuxième plan, c'est Elem,
le voile.
Elem.
Et on a donné l'exemple, par exemple, des gens qui sont brillants et des gens qui sont lucides, que c'est deux éléments qui sont pas du tout liés. Enfin, deux choses. Contraction et Elem. Et Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-ci, est contracté et voilé. Contracté, ça on le sait, il est contracté dans tous les cas, même dans la Kedusha il est contracté, dans le mal, partout il est contracté. Par contre, dans quel cas il est voilé? Il est voilé dans tout ce qui est Klipat Noga. Comment il est voilé? On a dit que dans le voilage, il y avait deux modes de voilage. Il y avait le mode de voilage dans lequel tu te contractes, et le mode de voilage dans lequel tellement Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, qu'il est voilé. Et c'est ça Klipat Noga. Dieu est tellement présent qu'on ne le voit pas. Ça c'est Klipat Noga. Qu'est-ce qu'on te dit? Klipat Noga, c'est le voile. Ça veut dire qu'on n'est pas fixé, on n'est pas défini. Qu'est-ce qui se passe quand un juif va dire des mots de Torah? Donc il va utiliser sa force de parole qui est neutre, et il va dire des mots de Torah avec. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, monsieur Yaakov?
Il va enlever le voile.
Il va enlever le voile. On est fixé maintenant. Puisqu'il va enlever le voile, donc ça veut dire que maintenant, on sait que ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose de bien. Donc il faut faire très bien ce qu'il fait. Continue à faire. On lui dit, même si c'est chez le Lishma, continue. Mais ce qu'on nous dit, ce qui est dommage maintenant, c'est que puisque tu es dans le monde ici-bas, tu es dans le monde d'Assia, donc c'est contracté. Et donc, dans le Sefer Torah, eh ben, ça reste un parchemin.
Ils volent pas.
Ils volent pas ton Sefer Torah. Maintenant, tu vas devoir ajouter le facteur de la Kavana. Qu'est-ce qu'il va faire le facteur de la Kavana dans mon exemple du Sefer Torah? C'est qu'on va devoir t'expliquer qu'est-ce que c'est un Sefer Torah. Et de manière à ce que toi, même si dans ton monde avec tes yeux tu ne le vois pas, mais dans ta pensée, tu vas réussir au moins à monter au monde de Bria. Que dans ta pensée, au moins, le Sefer Torah, il va voler.
D'accord.
Et ça va être le concept de la Kavana.
D'accord.
Donc là, toujours, on a rajouté un autre point pour expliquer pourquoi la Kavana est très importante. D'ailleurs, je veux juste finir sur un point.
D'accord.
Donc, on a dit que...
Tu vas décontracter, d'en faire rentrer plus
bien
de
sûr.
Lumière.
Mais ça veut dire, je vais décontracter dans ma tête. Dans la réalité, rien va changer.
C'est comme si tu agrandis ton ustensile.
Exactement. Et c'est ça, en vérité, le concept de dimension nous aide beaucoup. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a rien qui va changer. Mais je vais découvrir une nouvelle dimension. savez, comme l'exemple que je vous ai donné du même élément, que je peux voir les atomes, etc. Que c'est le même verre que je vois les atomes, les photons, tu m'as dit pas les photons,
les quarks,
d'accord, etc. Donc c'est la même chose, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que c'est le même verre, mais c'est des dimensions. Le rôle de la kavana, c'est de rajouter une nouvelle dimension à la chose. Sans la kavana, tu as fait la mitzvah, on est fixé, on sait que c'est du bon, mais c'est bloqué, c'est contracté. Quel va être le rôle de la kavana? Le rôle de la kavana va être de débrider. D'ailleurs, comme je vous disais, on a amené ici un verset très important qui était d'ailleurs la clé de ce qu'on a expliqué, dans lequel on a dit que Akadosh Baruch Hu c'est quel mistater, un dieu qui se cache. Donc, a priori, c'est triste de dire ça. Et il y a une chanson chassidique qui est composée par l'Admor HaZaken sur ce verset-là. Le verset dit Achen ata kel mistater. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une chanson joyeuse, une mélodie joyeuse. La chanson, la mélodie va comme ça. Ah, Renata, ta calmiste. C'est une mélodie joyeuse. Pourquoi c'est une mélodie joyeuse? On est en train de dire que Dieu se cache. Pourquoi t'es en train d'être content ici?
Ça veut dire que l'homme, il a un rôle et qu'il
avec,
a un bras.
Avec ce qu'on a expliqué, on comprend. Qu'est-ce qu'il a de Morazaken? Il y a caché. Si on dit qu'Akadosh Baruch Hu est caché, ça veut dire qu'il est tellement présent qu'il est caché. Et quand on réalise ça, on comprend qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu est présent partout.
C'est comme quelque chose qui est évident que tu vois pas.
Et c'est ça le concept de l'Ashgaha Pratit. Quand on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il gère notre vie. Mm-hmm. D'accord? Et qu'Akadosh Baruch Hu, il fait qu'un tel va rencontrer un tel, etc. Akadosh Baruch Hu, il envoie tellement de lumière dans notre monde que nous, on croit qu'on gère tout. Et quand on prend conscience qu'en vérité, nous, on fait que Ishtadlout, mais en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. On fait Ishtadlout, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. Mm-hmm. À ce moment-là, c'est là qu'on réalise qu'Akadosh Baruch Hu se cache. Mais on est content de ça. C'est joyeux, on est joyeux de ça.
Ça veut dire qu'il est là.
D'accord, ça veut dire qu'il est là. C'est-à-dire tellement il se cache qu'on le voit pas, mais c'est un très bon signe, c'est-à-dire qu'il est vraiment là.
Ça veut dire que plus t'as les emmerdements, mieux ça va.
Ah. Oui, bien sûr. Ça, on l'avait dit dans le chapitre...
Oui, mais ça rejoint.
On l'avait dit dans le chapitre 29. On avait dit que plus quelqu'un a des nishinot, a des épreuves, plus ça veut dire que Dieu se dévoile à lui.
Et oui.
Bien sûr. Plus Dieu se cache, et plus ça veut dire que Dieu est présent.
Ça rentre sur l'enregistrement, ça, parce que c'est bon, ça.
Ouais. On a eu beaucoup de notions aujourd'hui. Hein.
Bon, on va faire. D'accord.